そういう計画があるんですよ。
近い将来何の手がかりもない殺人現場でその場にあった植物に刑事が犯人の特徴を引き出す、このような光景が見られるかもしれない。植物が事件を解決するのである。究極の発明王橋本健、彼によると植物が日本語を話す日も近いという。
Nous émettons ce soir depuis la Folie N4 et accueillons la troisième édition du FIB intitulée Zoo Escape. Le FIB, initialement Festival international de Bagnolet est programmé par Cristina Solomuca et Paolo Codelupi, qui sont avec nous ce soir. Initialement organisé dans un jardin privé à Bagnolet, cette édition, qui s'intitule donc Zoo Escape, rassemble une sélection de vidéos déjà présentées lors des précédentes éditions et de nouveaux films d'artistes. Nous allons en retrouver certains tout à l'heure et d'autres par téléphone aussi. Bah, on est ravis de vous recevoir ce soir, Cristina et Paolo. Et peut-être avant de revenir sur cette troisième édition, vous pourriez peut-être nous dire pourquoi vous avez eu envie de diffuser d'autres films d'artistes et d'organiser ce festival, le FIB.
Alors, merci beaucoup de nous accueillir. Au départ, avec Paolo, nous avons réfléchi à une petite programmation en fin d'août. D'une part, pour diffuser des films d'amis. Et puis, c'était un peu aussi pour ceux qui ne sont pas partis en vacances.
Les gens qui sont restés.
De quelle manière vous avez opéré la sélection à la fois des artistes et des films que vous montrez ?
C'est une sélection qui s'est opérée assez naturellement. Il y a certains films dont on a déjà demandé depuis le premier FIB. D'autres se sont ajoutés au fur et à mesure. Pour ce FIB 2019, on a des nouveautés. Donc, on a donné vaguement un sujet qui aussi...
assez indéfini.
Voilà, qui se transforme dans le temps, qui était par rapport aux animaux, la société, donc l'homme et les animaux, d'où aussi le titre Zoo Escape. Et voilà, donc...
Il y avait des cartes blanches aussi.
Voilà.
C'est drôle parce que j'ai l'impression de parler de Festival de Cannes. Là, donc, nous avons des films voilà, croisette.
Une grande particularité, c'est qu'ils sont jamais trop longs. Donc, on avait dit au début, c'était 3 minutes, c'est devenu 7 minutes, il y en a de 10, de 15. Donc, voilà, c'est des très courts métrages, en fait.
En fait, au début, donc en 2016... quand nous avons initié le mini-festival, on a proposé aux amis d'artistes de nous prêter des courts vidéos qui, de près ou de loin, parlaient de l'animal. Donc, c'était des vidéos déjà existantes, d'une part, et d'autre part, nous avons demandé de faire des nouvelles propositions consacrées à ce sujet, avec une seule contrainte de ne pas dépasser 3 minutes, ce que tout le monde n'a pas respecté, évidemment, c'est normal. Et puis, pour la deuxième édition qui a eu lieu en 2018, toujours dans le jardin chez nos amis à Bagnolet, donc, c'est un petit jardin, la diffusion a eu lieu en plein air. Donc, nous avons regroupé des films autour de deux notions, du paysage et du collectif, en suivant toujours le même principe de film court. Donc, c'était une projection de 2 heures de vidéos très différentes. Donc, une grande partie était réalisée pour le FIB ou réalisée auparavant et adaptée à la diffusion en salle ou alors conçue pour une diffusion en galerie, en boucle. Après, il y avait des choses qui étaient des fragments autonomes ou pas. Il y a eu un documentaire de télévision, d'ailleurs qu'on remontre aujourd'hui. Il y a eu même un film performé. Voilà, des choses qui sont parfois construites autour de la bande-son et d'autres qui sont muets.
Oui, c'est vraiment une mosaïque. Donc, des longueurs différentes, parfois c'est des paysages, parfois c'est des fabrications, fiction, non-fiction. Voilà, c'est vraiment... c'est ce qui est très beau aussi, c'est qu'il y a une espèce d'enchevêtrement de temps, de temps différents, de vitesses différentes. Parfois, ils sont inversés. Donc, c'est vraiment... Ça englobe un sujet qu'on peut comprendre, mais les formes sont très différentes.
fait, cette histoire de temps, ça nous a pas mal intéressés dès le départ par rapport à l'idée de continuité, par rapport à cette idée qu'un film ou une programmation de film, a priori, c'est une durée. Et en découpant comme ça le temps avec des films très très courts, nous avons essayé de faire un montage où les films vont en quelque sorte se renvoyer la balle, vont correspondre, vont être dans une continuité et parfois vont créer des ruptures. De sorte à penser quelque chose, un temps non linéaire, hein, c'est ça un peu l'idée, un peu comme ce qu'on peut, enfin l'expérience qu'on peut en faire dans une exposition. Est-ce que on appelle les artistes qui se sont éloignés, qui boivent des bières autour ou...
Et peut-être juste avant, vous pouvez peut-être nous parler aussi du film que vous présentez.
Ah, on a essayé de le planquer.
On a essayé de le cacher dans la programmation. C'est un travail d'une longue haleine. En fait, ça fait partie d'une recherche qu'on fait depuis quelques années. C'est un bribe, en fait, de cette recherche. Comme une espèce de parenthèse. On est en train de depuis quelques années, travailler sur la notion du politique et des organisations politiques. Et faut que j'ajoute aussi que Christina est d'origine ukrainienne. Moi, je suis italien. Et donc, on a des passés politiques très différents. Christina a grandi dans l'ex-Union soviétique. Et voilà, le sujet était très important pour nous. On le développe aussi à travers différentes cultures. Là, on est en train de voir en Amérique centrale les mouvements zapatistes. Et donc, du coup, ce mini vidéo qu'on a, ça parle vraiment, c'est une partie, c'est un détail de ça. Je laisse Christina.
Donc oui, on s'intéresse, on a commencé à s'intéresser de manière assez large à la représentation du politique en art. Et puis, cette recherche qu'on mène au Chiapas, chez les zapatistes, sur l'iconographie cette culture développe, les images qu'ils construisent. Donc, ce qu'on présente là, c'est un très, très court fragment de quelque chose qui va prendre une forme d'épisodes, on va dire, qui chacun parle de la circulation des images, aussi bien révolutionnaires que quotidiennes, et la façon dont ces images peuvent contribuer à la politisation et construction d'une culture.
Donc, du coup, c'est une petite vidéo, un petit montage sur l'origine du balaclava. Voilà, tout simplement.
Alors, peut-être une petite question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez intercalé entre vos films, puisque c'est vous qui avez fait l'ordre.
Alors, oui, bon... Effectivement, la programmation, la feuille qui est devant nos yeux et qui n'est pas très radiophonique, en fait, commence par le numéro 00. Je lis, donc 00 et de temps en temps, Mathieu Clanchard extrait de la collection 20 secondes. Et la collection a commencé en 2000 et se poursuit jusqu'à 2019. Donc ce sera bien que Mathieu vienne parler de ces images. Mathieu Clanchard!
Il arrive en courant.
Voilà. Donc, je viens de dire que c'est une collection d'images, mais peut-être que tu peux en dire un tout petit peu plus de quoi il s'agit, puisque c'est le seul élément qui n'est pas du tout vidéo.
Ah, il n'est pas projeté en vidéo ?
Si.
Ah, bonjour, la radio. C'est pas une collection d'images, c'est une collection d'objets, de feuilles A4, pardon. C'est une collection de feuilles A4 qui sont des affichettes, des affiches. On dit des affiches de chats perdus, mais c'est impropre, c'est des affiches de chats fuyards, enfuis, sauvés. C'est des avis de recherche pour des animaux, des chats. C'est une grande collection aujourd'hui.
Mais qui sont très très beaux, parce qu'on se rend compte que les gens, ils ont des méthodes très très différentes pour diffuser cette information. Parfois, ces affiches sont écrites à la première personne.
Alors, ça, le chat rédige les affiches, les enfants rédigent les affiches. Il y a de nombreux rédacteurs et des nombreux graphic designers. Donc c'est un ensemble qui détaille plein de typologies d'affiches. Dans la peinture et dans les catégories de l'art, il y a l'art brut, et là c'est de l'art graphique brut. Enfin, il y a aussi des professionnels. Il y a des standards et des options qui sont prises, et donc c'est une collection d'affiches.
Voilà, et dans la programmation...
D'une grande beauté.
C'est vrai.
Qui commence qui est de 450 objets à peu près pour l'instant, et la collection augmente. Donc je passe un appel, vous voyez. Je prends toutes les affiches de chats perdus. Merci de votre intervention.
Très bien. Et donc, ces affiches, ces images sont disséminées dans la programmation. Ils surgissent de temps en temps entre les films, comme ça, en faisant un appel un peu désespéré, on va dire. Nous avons pas mal d'animaux. En fait, je fais une sorte de lien, comme ça, très thématique. On a pas mal d'animaux qui reviennent dans cette troisième édition du FIB. Et des animaux filmés de manière très très différente. Il y a un animal très beau, très curieux, que Virginie Yassef,
bonjour,
nous a confié. Tu peux en parler un tout petit peu ?
Oui, alors ça, je trouve que, bonjour, ça s'enchaîne très très bien avec les objets de Mathieu Clinchard, puisque cette vidéo est composée de vidéos trouvées, donc récupérées, que je n'ai pas filmées moi-même. Et ce sont aussi donc c'est un ensemble d'objets. Au départ, il y a 5 petits films que tout le monde peut aller voir sur YouTube. Et je les ai donc capturés moi-même après que ce renard, donc la vidéo que je présente montre un renard qui à plusieurs reprises vole une ou deux boules de pétanque. On peut lire dans
les boules de pétanque. Je pensais que c'était des pommes et je me disais mais ça mange pas de pommes.
Non, ça vole pas non plus fréquemment des boules de pétanque. Et on peut lire dans les articles, parce que ça a fait une sorte de... Voilà, on en a parlé. Il en aurait volé 38. Elle en aurait volé 38, parce que c'est sans doute une femelle. Et voilà, en fait, après, j'ai l'habitude de faire de la vidéo, et j'ai l'habitude de demander à des gens, plutôt des musiciens, des compositeurs, de faire le son. Et là, c'est un peu l'inverse. Je n'ai pas fait la vidéo, mais j'ai fait le son. C'est pour ça que j'ai composé une partie sonore, parce que les films sont muets sur YouTube, donc j'ai ajouté le son et j'ai évidemment fait du montage. Et le son est présent de manière à rendre un peu plus inquiétante la situation, alors qu'elle est plutôt burlesque au départ.
Elle est très très étrange, parce qu'il a, il est, il est extrêmement expressif. Oui. En fait, qu'il est, on dirait qu'il sourit, qu'il y a des mimiques, alors que, enfin voilà, la vidéo est d'une qualité
très basique.
Oui, voilà. Ouais.
En fait, c'est la personne qui a fait ces films que je ne connais pas est chasseur. Et il a utilisé une caméra infrarouge qu'on utilise quand on veut voir où passent les sangliers, en fait, la nuit. Voilà.
Je vais faire une liaison un peu étrange, puisque le renard donc vole des boules de pétanque.
Non.
Ah, si, incroyable. Si. Et j'aimerais bien, Alain de La Negra et Kaori Kinoshita nous ont confié un film qui s'appelle Raël Pétanque 720. Ah, ou alors c'est le nom de fichier.
720, ouais, c'est le nom de fichier, ouais, je pense.
Voilà.
Il n'y a pas de titre.
Mais il y a de la pétanque et il y a Raël. Ouais. Donc la liaison se fait de manière assez étrange. Je te laisse la parole pour décrire votre film, ouais. Cet objet.
Alors, en fait, on appelle ça un film, mais c'est une vidéo qu'on a fait, en fait, pour... qu'on a réalisé pour une copine qui avait une exposition, Julie Vessière, juste avant Noël, là, dernièrement. Elle nous avait demandé un petit film, et c'est quelque chose qu'on avait filmé l'été dernier, et c'est le gourou Raël, qui est chez lui, donc à Okinawa, où il habite, et qui est là-bas, et joue tous les jours à la pétanque. Il est assez fasciné par la pétanque, et nous, ça nous plaisait beaucoup, parce que là... Raël, il y a évidemment ce rapport à l'espace parce que c'est quelqu'un qui a visité d'autres planètes et qui a vécu là-dessus. Puis on trouvait que les boules, ça pouvait rappeler un peu toutes ces planètes. Et dessus, on voulait qu'il nous raconte un petit peu sa visite de l'espace. Alors, il nous a raconté... Finalement, il s'est passé un peu autre chose. Donc, il nous raconte en fait la mythologie un peu de comment il a construit sa secte, voilà, comment il a rencontré des extraterrestres qui sont venus d'une autre planète, nos pères, en fait, qui sont des humains comme nous, mais qui ont 20 000 ans d'avance un peu sur notre civilisation, et qui sont venus le voir pour lui demander d'être ambassadeur. Et donc, lui, depuis 40 ans, il essaye de construire cette ambassade, et il appelle aux dons, en fait, à travers pas mal de personnes. Il essaye de trouver de l'argent pour construire cette ambassade qui, peut-être un jour... sera construite, et quand elle sera construite, apparemment, ces extraterrestres viendront nous voir. Voilà, c'était un peu son idée. Et qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus
ce qui est super étrange, c'est que, en fait, la seule chose, quand on regarde toute la programmation, finalement, quand on arrive comme ça au milieu de la diffusion, la seule chose qui nous indique que c'est réel, c'est justement le titre oui. Sur la petite affiche. Et je me demande comment est-ce qu'on lit ces images. Si on n'a pas son nom, finalement.
Ouais. Bah, peut-être qu'on se raconte une autre histoire, parce qu'on a quand même tout le récit en voix off où il raconte cette rencontre. Et il dit tout a démarré à ce moment-là, donc on se doute bien que c'est le début de quelque chose. Mais c'est sûr qu'il est difficile d'en savoir plus, quoi. C'est un peu, pour nous, une sorte d'introduction qui permet peut-être de se poser plus de questions et d'avancer là-dessus. Nous, ce qui nous intéressait là-dedans, c'était en fait surtout la question un peu de la vérité au départ, quoi, de savoir qu'est-ce qu'on met comme image pour croire à son récit. Et à partir du moment où on y croit, il se passe quelque chose. Si on n'y croit pas, il ne se passe rien. Et c'était un peu tout ce jeu-là. Donc, on est allé là-bas et on a cherché à l'interviewer. On avait déjà cette idée de la pétanque. C'est la première chose qu'il nous a montré quand on est arrivé chez lui. C'est bizarrement, alors que c'est quelqu'un qui a quand même une biographie complètement dingue. Mais la première chose qu'il nous a montré, c'est ses coupes de pétanque, puisqu'il est champion là-bas à Okinawa. Et donc, ça semblait quelque chose de très important. Et donc, il nous a proposé tout de suite de filmer ça. Et c'était une manière pour lui de se mettre en avant, de montrer, parce qu'il était très bon, il est assez bon là-dedans. Il arrive à faire des carreaux, il arrive à bien placer, à pointer. Et finalement, ça dit pas mal de choses aussi. On voit qu'il avait accueilli deux jeunes femmes, il est à côté... On voit toute cette vie un peu d'épicurien qu'il a. Et c'est un endroit secret. On n'a pas le droit de dévoiler où est sa maison non plus. Donc il y avait pas mal d'informations qui étaient amusantes. Mais c'est presque anecdotique, hein, c'est vrai. C'est qu'on s'est retrouvé avec cette situation. et on voulait filmer son visage, quoi, et le superposer à ce récit. Et parce que chez les Raéliens, il y a beaucoup aussi cette idée que si on voit la personne en vrai, on va croire, on sait que son récit est vrai, et donc on voulait un petit peu jouer de ça, quoi. Voilà.
Alors, c'est assez curieux parce que là, on essaye de faire des enchaînements, mais ils se font tout seuls. En fait, nous avons dans la programmation un artiste que nous n'avons jamais vu, qui s'appelle René Garcia Azouk, qui, à force de travailler avec lui, devient un personnage un peu curieux. En fait, on a entendu parler pour la première fois de la part des amis, un artiste vidéaste, Luigi Beltram, et Elfie Turpin, qui est directrice du Crac Alsace. Quand nous avons commencé à construire la première programmation, ils nous ont parlé de cet artiste et nous avons projeté un film qui s'appelle Labyrinthe. Nous avons essayé de le contacter là pour l'émission et pour rediffuser sa vidéo. En fait, nous n'avons pas réussi réellement. Mais par contre, il nous a écrit une lettre. Tiens, Paolo, tu peux la lire, s'il te plaît?
Alors, René Garcia Atouk, La Bayek, le 25/07/2019. Salut! J'ai filmé cet échange avec la chouette sur la Huaca Continela à Chincha, au Pérou. Elle vit dans les excavations de la pyramide qu'elle garde. J'ai confié ce film à Luigi et Elfie en 2016. Depuis, plus rien. J'espère qu'ils en font bon usage. Peace and love, René.
Voilà. Donc le film, c'est une très belle vidéo, effectivement, où on voit la chouette et il y a vraiment un très très beau travail du son. Alors peut-être pour faire un lien, on aimerait bien appeler des gens. Comme oui. Ça, ce rapport à la dématérialisation et la non-présence des gens en vrai va être dédoublé.
Voilà.
Alors,
là, on va contacter de l'autre côté de la planète.
Jean-François. Alors, Jean-François Vallée.
Qui est
vidéaste et qui nous a confié un fragment d'un film, qui est un film qui était fait pour la vidéo. Ah, allô, Jean-François ?
Oui.
Est-ce que tu m'entends ?
Je t'entends très bien.
Parfait. Nous sommes en direct. Et est-ce que tu peux parler un tout petit peu du film Burroughs et du fragment que nous diffusons ce soir au FIB.
Oui, ouais, c'est assez curieux. Écoute, moi j'aime bien parler des choses à partir de la position existentielle dans laquelle je suis. Or, je suis dans la verdure, un soleil couchant breton dans la campagne très calme. Donc c'est un peu difficile de parler, de revenir à quelqu'un comme William Burroughs, c'est-à-dire un dynamiteur, et, comme tu sais, un terroriste en fait. Donc c'est un peu difficile, mais bon, on peut quand même essayer. Moi, j'étais là, je l'ai vu, c'est ce que je peux dire, c'est que, évidemment, comme beaucoup d'autres gens, j'étais extrêmement intrigué par lui très tôt, dans les années 50, non pas 50, encore pas si, même dans les années 50, 60, 70, et après dans les années 80, où il a évidemment fasciné toutes les nouvelles générations de punk de l'époque, qui était un peu terroriste, et dans les conventions Nova, etc. Donc moi, il était intrigant, c'était un homme, il avait l'air, il s'habillait comme un, avec son chapeau, le truc, comme un fonctionnaire un peu, donc c'était assez étonnant, quand on écoutait ce qu'il disait, et quand on voyait ce qu'il faisait, c'est-à-dire, il n'y a pas plus grand terroriste, dynamiteur et imprécateur que lui, quoi. Alors voilà, ce film, ce bout de film que vous voyez, c'est ça, c'est des éclats, en fait, d'un dynamiteur, d'un imprécateur, Et moi, j'ai cru à ça. Est-ce que j'y crois encore? Je ne sais pas. Je peux donner un paradoxe tranquillement, parce que pourquoi pas, finalement, sur cette histoire, vu que moi, je suis dans le Cannes Campagnard après avoir quitté New York. Lui, à la fin du film, mais ça, vous ne l'avez pas dans le petit bout, là.
Il dit
simplement, voilà, c'est très facile, il dit, il avait une écriture un peu torturée, parce qu'il n'est pas loin de mourir. Il dit, finalement, toutes ces histoires, toutes les théories, tous ces ismes auxquels j'ai cru, c'est du pipeau, ça vaut rien. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'amour pour mes chats. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur le film.
C'est parfait.
Ouais, bah c'est très bien. Voilà. Non, c'est vrai, finalement, ça résume un peu toutes ces notions. Cela dit, c'est vrai que pour moi, j'ai eu une admiration sans borne pour cet homme qui, avec une lucidité de rayon X nucléaire, a vu l'horreur dans laquelle on est maintenant, l'adoration de l'ambition, du succès, du fric. Et tout le temps, voilà. Et lui, pour moi, s'il faut. C'est vrai, c'est quelqu'un que les gens, si je peux dire quelque chose, c'est lisez-le, si vous avez le courage. Alors, retournez voir cet homme, parce que c'est quand même, finalement, un homme, oui, extraordinaire. Et c'est une vision complètement étonnante, quoi. Donc voilà, s'il en reste ça, regardez, jetez un coup d'œil, lisez, c'est pas facile. Lisez Nova Express, lisez Junkie, lisez ce que je sais, moi. Enfin, voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour l'instant. Dans ma solitude bretonne.
Cool, Jean, okay. Ça, merci beaucoup.
Ok, Christina, très bien, merci. Allez,
je t'embrasse.
Au revoir.
J'ai pensé au paysage, et j'ai pensé à un paysage beaucoup plus imaginaire et beaucoup plus indéfini. Je ne sais pas si je peux introduire ta vidéo comme ça, Bertrand qui essaye de s'asseoir devant le micro.
Ouais. Ouais.
Bertrand Lamarche.
Bonsoir.
Alors, c'est la vidéo que nous avons présentée pour le FIB 2. Et je crois que c'est la vidéo qui était qui était la plus vidéo trucage de toutes que nous avons présentées.
Ah. Oui, en fait, tu nous avais montré toute une série de vidéos qui étaient assez mystérieuses, mais qui étaient toujours des fabrications.
Ouais. Ouais, en fait, voilà, ouais, c'est des vidéos qui sont, c'est un film qui a été fait dans un décor construit de A à Z. Et il s'agit d'une caméra embarquée sur un petit train électrique qui traverse des boyaux. Alors, il n'y avait pas vraiment d'écriture du film au départ. J'avais juste l'idée vaguement qu'il fallait qu'on descende dans un souterrain et qu'on passait et qu'on devait arriver après plusieurs passages dans une boîte de nuit en sous-sol. Voilà, c'était l'idée de cette boîte de nuit qui est un petit peu récurrente dans mon boulot, qui serait une boîte de nuit où on peut vraiment devenir, mais vraiment qui on veut. Ça, c'est un peu ça.
C'est un peu la sensation qu'on a en regardant cette vidéo, qu'elle peut recevoir en fait tout un tas de projections. On peut la lire comme quelque chose de très très drôle et un peu farfelu.
Ouais, mais c'est ce que les gens disent aussi.
Ça peut être assez ambigu aussi.
Ouais, il y a peut-être pour éclairer le travail, on peut dire que par exemple, c'est un boulot qui a été inspiré un peu par Jean-Jacques Lequeux, le dessinateur d'architecture, qui a d'ailleurs fait un dessin qui est intitulé l'endroit. Il y a un endroit des transformations chez Lequeux. C'est un très très beau site. Il y a un autre film qui a inspiré ce truc-là, c'est Duel. Et le film s'appelle Poursuite parce que c'est un train où il y a une lumière rouge qui projette, qui éclaire les tunnels qu'on traverse. Et donc c'est comme une poursuite de théâtre. Et après on croise une sorte d'animal Voilà, cet animal-là, il était un peu inspiré du bouquin de Pierre Klossowski qui s'appelle Le Baphomet, qui est aussi un bouquin sur des personnages qui se transforment. Et dans ce bouquin, il y a un tamanoir. Et je voulais faire la queue d'un tamanoir. Mais je l'ai fait avec une plume d'autruche qui se dandine comme ça de gauche à droite et qui tape sur les parois du tunnel. Et on ne sait pas trop ce que c'est en général. Alors donc voilà, en fait, j'ai fait des rushs. Je ne savais pas où j'allais. Et donc le film a fini par se boucler jusqu'à voilà, la fin du film, c'est un train qui arrive en face de vous et qui pousse le wagon à l'extérieur du tunnel. Ça, c'est un peu pour le côté duel. Donc ouais, c'est farfelu, mais et c'est, ça peut être flippant aussi, si on veut. Enfin, c'est un peu trippant. L'idée aussi, c'était de retrouver vraiment la base du cinéma et du film. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à pouvoir projeter des films, on a tout de suite mis des caméras sur des trains. C'est le truc, on met une caméra sur un train et c'est parti.
Oui, et aussi l'entrée du train dans la gare, c'est vraiment voilà. les premiers.
Voilà, donc c'est cette histoire de travelling, de caméra embarquée qui très très vite arrive dans l'histoire du cinéma et c'était un peu aussi la reprise de ça qui a fait le film. Donc.
Ce qui est curieux, c'est qu'il y a quelque chose de très, très mécanique, mais en même temps, très, très animal.
Oui. Il y a du boyau. Hein. C'est un petit peu quelque chose de l'ordre de l'endoscopie aussi. On pourrait être dans un corps.
Mais aussi du travelling.
Oui. Oui. Ça, c'est le train. C'est vraiment... Il y a aussi peut-être l'idée de la mine. On descend en sous-sol, on va dans une mine. Il y a des richesses, il y a un scintillement. En tout cas, tout est rouge. C'est vraiment très, très rouge. Et puis, il y a aussi une idée du musical. Parce que le musical, un peu dans les années 30 et tout, quand on va au Rex et tout ça, la plupart des scènes sont des dans la déco, c'est des demi-arcs de cercle. Et on est dans des tubes. Voilà, dans des demi-tubes et des tubes. Après, c'est difficile de parler d'un scénario, mais on se promène, quoi.
Oui, il y a une continuité, en fait.
Et puis, il y avait aussi quelque chose qui me tenait à cœur dans ce truc-là, c'est d'essayer de faire un peu diabolique. Ominous, en anglais, j'aime bien ce terme-là, c'est inquiétant ou malveillant ou effrayant. Et je voilà. Donc, effectivement, c'est assez comique. Il y a des effets. Et puis, il y a des trucs un petit peu vertigineux aussi, j'espère.
Merci beaucoup,
merci
Bertrand. On va essayer de enchaîner avec l'étrange et animal et le paysage. qu'est-ce que tu en penses, Paolo? On appelle Anne-Charlotte?
Oui, là on va appeler Anne-Charlotte. Donc Christina est en train de numéroter la vidéo qu'on a ici au FIB de Anne-Charlotte cette année. C'est quelque chose qu'on revoit souvent dans son travail. C'est une prise de vue dans la nature, dans la pénombre ou dans une lumière très, très, très légère d'animaux de la forêt dans une qualité de grain qui est très, très, très bruyante, en fait. Mais elle va nous raconter.
En fait, il faut que tu te rapproches du micro.
Voilà.
Oui.
Tu m'entends?
Oui, je t'entends.
Alors, nous sommes en direct.
Oui.
Et est-ce que tu pourrais présenter ta vidéo, donc que nous diffusons ce soir au FIB, qui s'appelle Entre chien et loup?
Oui. Bon, ça peut voir. Cette vidéo Entre chien et loup, donc c'est un très court film, ça fait même pas 6 minutes. C'est une surprise, c'est-à-dire que j'ai découvert ces biches et ces cerfs aux portes de la ville, au coucher du soleil. Donc c'est des biches qui sont placées assez étrangement devant des bâtiments. Donc voilà, c'est une vidéo que j'aime bien encore, dans le sens où c'est encore Elle traite de choses qui m'intéressent encore beaucoup, les notions d'entre-deux. Donc, on est entre la ville et la campagne, on est entre le jour et la nuit, parce que je travaille beaucoup au crépuscule ou à l'aube. Là, c'est au crépuscule. Et on est aussi entre la couleur et le noir et blanc, donc une espèce de bleu un peu crépusculaire. Voilà.
Il y a une certaine épaisseur de cette couleur très très pixelisée et très vibrante qui en fait correspond vraiment bien avec la musique.
Oui, alors donc oui, je travaille toujours avec, enfin presque toujours avec le même musicien qui s'appelle Luc Kerardan, qui lui est de l'univers de la techno. Bon, il y a aussi des liens avec l'art, évidemment, parce qu'il a fait les Beaux-Arts à Cergy. Mais oui, la musique accentue un peu l'atmosphère, la tension, en fait, la tension des images. Et oui, ces images sont... Effectivement, il y a un truc un peu épais. Dans le grain, mais donc c'est finalement né d'une mauvaise façon de régler la caméra. J'utilise toujours les outils, je détourne toujours un peu les outils, c'est-à-dire que je filme en basse lumière et c'est des images donc sous-exposées qui sont
modifiées. Il y a un côté hypnotique en fait dans ce crépitement qui est renforcé par la musique. En fait, on est très très apaisé, mais en même temps, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose.
Oui, alors ce qui est drôle, enfin, il y a une toute petite blague dans cette vidéo. Enfin, c'est vraiment pas une très grande blague, hein, mais il y a un moment, on a un jogger qui passe et c'est le seul. Le seul événement qui se produit. Mais oui, il y a toujours un truc comme ça dans mes vidéos où on se dit qu'il va se passer quelque chose, en fait rien. Ou à peine.
Merci beaucoup. Je crois que nous allons enchaîner sur les apparitions.
Allez, bonne soirée.
Je t'embrasse.
Bye bye.
Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien enchaîner sur les apparitions. Des hommes et des animaux à partir de du crépuscule de Anne-Charlotte Finel. J'aimerais bien appeler Simon Boutevin et Sol Guilly pour parler de leur film Des Ficeaux, 12-08-17. Alors, ils arrivent.
Et ils se battent pour ne pas venir.
Alors, asseyez-vous. Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu des conditions de tournage, vous avez où vous avez tourné
Alors, on a tourné au Burkina Faso. On n'est pas parti au Burkina Faso pour tourner, on est parti au Burkina Faso pour rencontrer Camille Varenne qui tournait un western avec toute une communauté Peul qui élève des chevaux à Bobo du Lasso.
Et pour fabriquer un panier.
Vas-y, explique. Et en effet, avec Sol Guilly qui cherchait des vanniers pour fabriquer un panier. Et on n'y allait pas du tout pour faire un film particulier, mais un soir, on a suivi Aboubacar, un des membres de cette famille Peul qui tourne le film avec Camille Varenne et qui nous explique qu'ils doivent livrer un cheval dans un village à proximité de Bobo du Lasso dans la soirée. Ils payent deux enfants qui vont chevaucher ce vieux cheval sauvé d'un abattoir. Et lui-même et nous y allons en voiture. On arrive dans un village à la tombée de la nuit. On voit plein de garçons, d'enfants, des jeunes garçons, des bouviers, des cendres, un peu de tous les sentiers, avec des fagots dans les bras. Et ils se rencontrent tous dans la maison de ce marabout, qui se transforme en école coranique à la tombée de la nuit. Ils se mettent en rang, récitent leur sourate, et à la lumière de ces fagots qu'ils enflamment les uns après les autres. Et voilà, nous, on a commencé à enregistrer assez spontanément ce qu'on entendait là, le crépitement du feu, les sourates, les différentes prières. Et arrive la nuit, les deux petits garçons qui livraient ce cheval blanc. Donc il y avait quelque chose d'assez magique à l'arrivée de ce cheval, qui était très maigre, très fatigué. Et tous les élèves ont arrêté leur prière et se sont levés et ont approché avec des lampes poches ou avec leur téléphone portable, filmer ce cheval blanc arrivé la nuit. Et Abou Bakar, qui nous accompagnait et donc faisait cette transaction, faisait cette vente, a commencé à laver le cheval, à le shampouiner.
Pendant des heures et des heures. Et Selgi, tu peux en parler un tout petit peu du montage, parce que le film est assez étrange. En fait, nous sommes dans le noir et il y a des images qui apparaissent, donc qui surgissent comme ça. D'abord, les enfants autour du feu qui chantent, ensuite les animaux. Comment tu as décidé de montage? Comment vous avez travaillé avec Simon?
Quand vous nous avez invités, on a tout de suite pensé à ce moment exceptionnel et le fait qu'on savait que ça allait être projeté pendant la nuit dans un jardin privé à Bagnolet. Bagnolet 9-3. Donc, on a pensé à commencer le film dans le noir, de manière à ce qu'on confonde la nuit avec ce qui se passe dans l'image. Et on entend seulement les enfants lire quelque chose. Et voilà, c'était une manière d'entrer dans le moment. Et ça finit aussi, je crois, dans le noir. Et c'était assez naturel et... On était limité dans le temps, en 5 minutes, je crois. Donc, on a bien respecté. Et voilà.
Merci beaucoup. Paolo, tu veux en parler un peu du film de Julien?
Alors, le film de
Julien Lustau,
en fait, qui... Attends, viens, ça va, Arsène. Je vais juste décrire l'image. On voit le film. En fait, c'est un montage. On devine que c'est un montage d'images, de rebuts d'images, en fait. C'est
roches.
Des roches. En fait, c'est les morceaux que normalement on n'utilise jamais, en fait, dans la vidéo, dans le cinéma. Qui sont les moments où tout est en train d'être réglé. Donc, soit...
Juste la caméra.
Voilà, soit sur le trépied, soit dans l'ouverture du diaphragme, soit dans le zoom. Et on reconnaît que c'est des sites anciens, de l'Antiquité, dans des endroits désertiques. On reconnaît des ruines romaines, où on voit des colonnes sur un vaste paysage, on voit des ruines romaines. Dans une deuxième moitié du court-métrage, on voit des ruines dans un paysage qui est assez semblable, mais c'est des ruines très différentes, qui sont des pyramides. Des pyramides dont on n'a pas l'habitude non plus de voir, qui ne sont pas représentatives des pyramides qu'on voit en Égypte, mais c'est des pyramides au Soudan. Des pyramides qui sont plus aiguës, plus noires, et le tout confère une idée de quelque chose d'étrange, presque extraplanétaire, soit par les mouvements de la caméra que par le choix du sujet, en fait. Donc, on a, en tant que spectateur, on est devant un objet qui est plus de l'ordre de la sculpture que d'un cinéma ou d'un film.
Mais je crois que c'est important de préciser les lieux de tournage.
Oui, qui sont dans le descriptif, qui c'est
Syrie et Soudan.
Oui, un, c'est le site romain. Je ne trouve plus. C'est.
Il y a Julien qui nous souffle.
Oui. Palmyre. Néroé pour le Soudan. Voilà, on a la précision. Et c'était filmé en 2009, donc avant les deux conflits, en fait, dans chacun des pays. Donc même avant les bombardements ou la guerre en Syrie.
Encore une fois, on décrit ce que nous avons vu. En fait, la caméra cherche le point de vue, ajuste la mise au point, ajuste le cadre, ne s'arrête jamais, puisque justement, une fois que ce cadre est trouvé, ces images sont coupées. Julien Lousteau laisse uniquement les moments de recherche. Et donc, ce mouvement perpétuel, sans arrêt, confère au film un sentiment un peu inquiétant et en même temps il y a quelque chose de cet œil mécanique on pense aux drones, on pense à la recherche d'une cible et en même temps on est vraiment ébloui par ces images, quoi, par ces ruines.
Il y a aussi un aspect du travail de Julien Lousteau qui est celle il parle souvent du son, de la musique. Et il y a quelque chose d'assez musical aussi dans ces mouvements très, très mécaniques. Il y a quelque chose de presque, pour moi, hein, quelque chose de musique électronique. Il y a quelque chose d'une espèce de composition parce que c'est des mouvements qui se succèdent très rapidement. Il y a un son qui est très important, qui sont les sons en fait de la manipulation de la caméra et aussi le son de trépied. On entend le souffle, on entend le zoom. Donc il y a ce côté vraiment sonore qui est très très présent et très important.
Alors je te propose qu'on parle, on continue à parler du paysage.
Oui.
Je vais appeler Caroline.
Oui.
Alors, je vais appeler Caroline Sislik.
Voilà, je vais remplir un peu en disant que dans le FIB, on a vraiment ce double aspect qui est le paysage et la fabrication de paysages, en fait. Donc, on voit soit des hommes ou des animaux.
Ah. Bonsoir.
Allô, bonsoir Caroline. Alors, nous sommes en direct.
Oui.
Est-ce que tu pourrais parler un peu du tournage de ton film qui s'appelle Gourbi, ouais, et que tu, ouais, as réalisé en 2018 et, ouais, tu l'as réalisé à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui.
Je te laisse, okay, la parole.
Et, oui, alors en fait, Gourbi, effectivement, ça s'appelle Gourbi 5. En fait, Gourbi, c'est un récit collectif et, qui a été construit à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, 5, le numéro 5, c'est parce qu'en fait, il avait été détruit 4 fois en amont. Et donc, le tournage, on l'a fait juste au moment de la dernière vague d'expulsion qu'il y avait eu l'année dernière. Et en fait, avec mon compagnon qui est charpentier, on est proche d'un collectif qui s'appelle Abracadabois, qui est sur place et qui, en fait, prend soin de la forêt de Roanne et il prélève de la ressource sur place, donc des bois, pour à la fois construire des maisons, enfin des cabanes, et puis aussi se chauffer, et tout en prenant soin du paysage, donc avec une question de respect des autres formes de vie sur place et de partage et de sobriété. et une dimension aussi collective. Et ce qu'on voit dans le tournage, c'est que cette dimension collective, en fait, elle est fondamentale, parce que ce montage de Charmante, on l'a fait dans des conditions qui étaient très précaires, avec très peu de matériel sur place. Il y avait une corde, un escabeau, une visseuse, et en fait, c'est toute la force des gens à se coordonner finalement et à travailler ensemble qui a fait qu'on a pu monter cette charpente. Ensuite, dans la vidéo, il y a deux temps en fait qui s'opposent, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la construction et le temps de la destruction. Et en fait, pour moi, je pense que c'est deux mondes en fait qui s'opposent, avec quelque chose de beaucoup plus dominateur et hégémonique. Donc voilà. Et après, peut-être de façon plus transversale, en fait, dans les formes qui sont produites et dans, par exemple, la façon dont j'ai travaillé le montage, je mêle ces deux temporalités, et donc il y a une forme d'anachronisme. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je travaille dans ma pratique, dans notre rapport au réel. Je pense qu'en fait, on est toujours constitué d'un certain nombre de strates, en fait, de strates de temps, de culture, et donc qu'elles vont interférer finalement avec notre rapport au présent. Et la deuxième question aussi, qui pour moi est fondamentale derrière ce genre d'expérimentation aussi, et le fait de s'intéresser à ce type d'expérimentation sur ces zones, en fait, c'est la question des normes. Je pense qu'en fait, et ça c'est quelque chose aussi voilà, qui traverse ma démarche, c'est qu'en fait, on est dans un rapport qui est extrêmement normatif. Ça a été, par exemple, beaucoup théorisé par Michel Foucault sur la question du peuple et des populations. Il a montré comment le peuple, en fait, au XIXe siècle, avait été transformé en population pour être géré en termes de classe, d'âge, de sexe, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre façon de produire des espaces aussi, on est extrêmement normatif. En fait, on essaye, le pouvoir essaye beaucoup d'anticiper tous les usages, toutes les formes, avec des choses qui sont quand même extrêmement sécuritaires et normées. Et je trouve qu'en fait, que dans des marges, en fait, dans la ZAD, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des zones d'expérimentation, et puis c'est aussi une forme, ça permet aussi d'avoir une forme de posture critique et de distance critique en fait par rapport à notre façon de produire de l'espace et en fait d'habiter.
Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup Caroline. Là, j'étais pas devant le micro. C'est un peu équilibriste. Je pense que nous allons parler de un tout petit peu d'autres vidéos qui parlent du paysage. Nous en avons beaucoup. Je te remercie, je t'embrasse.
Oui, bonne soirée.
Bonne soirée.
À bientôt.
Voilà, on va juste
on va peut-être
un peu
juste citer tous les autres personnes qui n'ont pas pu venir parce que nous sommes en été et puis tout le monde est parti en vacances ou alors se trouve très loin parce que, par exemple, Elise Florenti et Marcel Turkowski, dont vous avez entendu le son au tout début d'enregistrement, présentent une vidéo et eux, ils habitent à Berlin. Simon Ripoll-Hurier est actuellement aux États-Unis.
On présente Ara Grazia Artis de 18 minutes. C'est un film de 2016. Et juste après, on a Alex Pou avec Sirius. C'est un film de 11 minutes de 2018.
À Amilcar Packer, qui ne peut pas être là, présente une vidéo qui s'appelle Vidéo numéro 14, qu'il a réalisée en 2006. C'est une chaise qu'il a filmée, une chaise qu'il jette par la fenêtre d'un avion et qu'il a filmée en sautant en parachute. Laura Kousk et Camille Lorelli nous ont confié la vidéo qui s'appelle Proposal for Happiness 2, pas le numéro 1, le 2.
C'est une vidéo de 2011 et ils habitent en Estonie.
À Tallinn. Chloé Dugigro présente dans Pierre sur Terre la vidéo de 2016 et actuellement Chloé, je crois, est en Bretagne. Ça nous fait du paysage. Thomas Portier avec Fair Voyager, qui est un étrange document. C'est un document que Thomas a trouvé sur Internet et qui parle d'une communauté qui s'est formée dans d'une communauté de gens qui s'est formée dans le Pacifique, et océan Pacifique, il me semble. Nous avons un film de Tania Gerbrandt, Smooth Evolution, qui est une vidéo qui d'habitude elle présente en installation, en galerie, en boucle, qui est aussi une performance filmée et montée.
On a Coralie Morin qui nous a confié une petite vidéo de 2019. Là aussi, c'est un paysage où on voit une espèce d'animal, une espèce de biche qui traverse.
Qui est un fragment, en fait, qui est un montage en cours aussi.
Voilà, voilà.
Michael Arpin, son titre 2019, ça fait partie des films qui étaient faits cette année. Donc, c'est une vidéo qu'il avait présentée en février dernier dans une exposition à Rennes et qui est en fait faite pour tourner en boucle dans une galerie pour effectivement faire des connexions avec les objets qui étaient présentés. Là, cette connexion peut s'opérer avec d'autres films. Et enfin,
Kuan Nguyen Phuong, c'est une pièce sans titre, c'est de 2017.
Et c'est une vidéo dans la bande sonore. Kuan a enregistré le ronflement de son père qu'elle a mis sur les images des vagues de la mer qui va clore notre projection ce soir.
Merci. Bonne nuit.
Merci.
And now counts 150,000 inhabitants. Mid-2011, Fair Communities public debates points fingers at the over-dependency to the continent. To avoid this, I chartered the community expense 5 barges and the desalination plant delivered in early 2012. In the same time, the community engaged the Fair Voyagers bailout. The sale occurs in early 2013. The community is now at its max dependency and counts 350,000 inhabitants. First, television and radio channels appears as well as significant increase in the birth rates, which raises questions about the community's status at the international level. At the end of 2014, the Fair community excess 500,000 inhabitants with a fleet of 13,000 ships and begins a large floating breakwater construction for a better bad weather resistance. In early 2015, new election occurs and Samuel Fried is re-elected. His new project is the acknowledgement of the community by the UN as a sovereign state. At the last census, end of 2015, as the Fair community is currently debating the UN, it's composed of 563,259 inhabitants spread over 13,237 ships.
La terre et le ciel, c'est pas tout, c'est pas là-haut et c'est pas en bas, c'est entre les deux, et ça nous permet de capter toutes les infos que nous avons je t'ai dit au début de notre conversation.
Pour bien comprendre.
Oui.
Ça fait quelle taille?
La machine, on peut dire à peu près 400 km, hein, parce que c'est franchement large.
C'est une grande machine.
Ouais, bien sûr.
En fait, si la photo, on peut pas trop savoir que la machine est tellement grande, mais...
C'est trop vaste, en fait.
Faut voir réellement, en fait.
On a juste fait cette schéma pour pouvoir donner un peu les
idées. Une idée de comment est la machine, en fait.
Mais franchement, c'est une grande machine. Vous voyez toutes ces dimensions, tout ça, ça vient se réunir là. En fait, c'est ça, c'est là qu'il y a la base de toutes les infos que nous allons recevoir.
C'est un récepteur alors, ça?
Tout à fait, c'est le récepteur. C'est le, on peut dire, c'est le pion de l'appareil, de la machine. Donc du coup, le vent, à travers le vent et la silence, ça nous permet de capter les infos.
Donc elle transforme le silence en information.
Tout à fait.
We are conscious that we belong to a general motion of history. Eating soup belongs to a general motion of history. We know that this conscience to belong to a general motion of history relies to a specific ideology of progress. We are eating reliantly a specific ideology of progress. We are eating an archaic soup. Green archaic soup. A primordial soup. A primordial soup is also called a prebiotic soup. A primordial or prebiotic soup is an hypothesis on life's beginning. A primordial soup is a colloquial expression describing the liquid environment where life is supposed to have begun. The primordial soup is reliant to a specific ideology of progress. A soup progresses we are progressing with a soup. We are slowly progressing second by second with a soup. We are answering one way or another the soup's questioning. We communicate with the soup. We are sharing the same soup. Thanks to the soup, we can communicate all together. We can't say anymore, thanks to the soup, that we have some communication issues. The soup erases the communication issues. The soup provides a clean slate from communication issues. To provide a clean slate relies to a specific ideology of progress. The soup teaches us, makes us grow, puts us on motion.
Je voulais aussi vous montrer ces images-là. Ce sont des images que j'ai filmées en décembre 2018 dans la ferme dans laquelle vivaient mes grands-parents. Comme beaucoup d'endroits, c'est un lieu qui a subi plusieurs transformations au fil du temps et des usages. Ici, ce que l'on voit à gauche, derrière la voiture, c'est la partie habitation. Donc il y a une cuisine, une grande salle à manger, des chambres au rez-de-chaussée et d'autres à l'étage. Tout n'a pas été aménagé à la même époque. Là, il y a les différentes dépendances qui servaient à l'usage agricole, des écuries, un atelier, une grange. Là, un garage construit plus tardivement dans les années 70 pour y garer des voitures. et là un autre bâtiment pour y élever des animaux, une basse-cour et des cochons. Pour des questions d'héritage, dans les années 70, la ferme en fait s'est retrouvée scindée en deux parties. Là, par exemple, c'est la partie qui n'appartient plus à mes grands-parents depuis ce moment-là, et les personnes qui la possèdent n'ont jamais eu l'usage de ces dépendances ni vraiment habité dedans. Et la grange que l'on voit au fond, c'est pareil, elle appartient à l'autre partie de la maison. Là, on voit bien la différence entre les deux parties. Là, à gauche, mes grands-parents ont refait faire la toiture dans les années 2000, et l'autre n'a pas été refaite. Au fond, on voit des clapiers à lapins. Pendant longtemps, mes grands-parents ont élevé des lapins pour leur propre consommation. Quand ils ont arrêté, ils ont quand même gardé les clapiers. Je ne connais pas trop la raison, mais plus tard, ils y ont élevé un pigeon. Pas pour le manger, juste comme ça. Ils lui avaient même donné un prénom. Une fois, le pigeon a réussi à s'échapper, il est parti pendant un petit moment. Et puis un jour, il est revenu à la cage qu'ils avaient laissée ouverte. Là, à gauche, on voit mieux la partie qui n'appartient pas à mes grands-parents. Ça fait longtemps que plus personne n'y habite, donc ça sert aux chauves-souris et aux hirondelles. Je voulais aussi vous montrer quelques photographies retrouvées il y a peu. Elles n'ont pas toutes été prises à la même période, mais elles nous montrent toutes à peu près le même endroit. C'est étrange comme moi aussi, en filmant la cour de la ferme, inconsciemment, je me suis placé à ces mêmes endroits. Sur cette photo-là, il y a un élément qui a un peu plus attiré mon attention. Au fond, à droite, c'est un bâtiment qui s'appelle une loge. En faisant des recherches, j'ai appris qu'il en existait différentes formes, différentes déclinaisons, mais toutes construites sur le même principe. Une structure en poteau de bois plantée dans le sol, recouverte ensuite avec de la bruyère. Selon les endroits, elle servait à y stocker des matériaux, du bois, du foin, du matériel. J'aime bien l'idée de ce bâtiment simple et assez rudimentaire, construit avec les matériaux qui proviennent des alentours. Fabriqué pour un usage précis, pour du plus ou moins long terme, mais qui reste démontable sans laisser de réelles traces. Maintenant, voici la partie qui servait à l'activité agricole. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ces espaces ont eu des usages différents en fonction des moments. Ce que l'on voit, c'est donc une superposition d'usages, sans que les traces de l'un aient effacé l'autre. Ici, par exemple, c'est une écurie. On y abritait des vaches. Sur les côtés, on peut voir les mangeoires. Et là, les abreuvoirs. Plus tard, cet endroit a servi d'espace de stockage et de cuisine supplémentaire en été. Ici, pareil, plusieurs usages. Au fond, il y a un râtelier. Cette pièce a servi à abriter un cheval ou un bœuf, qui servait avant à l'attelage dans les champs, quand il n'y avait pas de tracteur. Et là, la pompe de la trayeuse pour le lait. Ici, c'est la deuxième écurie, plus grande que la première. Et on distingue les tuyaux sur lesquels était branchée la pompe de la trayeuse que je vous ai montrée avant. Par cette ouverture, on pénètre dans la stabule, ou plus simplement une étable. Comme on peut le voir, cet endroit a aussi changé de fonction après la retraite de mes grands-parents. Là, c'est toujours la stabule depuis l'extérieur. On voit quelques arbres fruitiers, des pruniers. Ici, c'est le bâtiment qui a été construit après la destruction de la loge, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dedans, il y avait des outils stockés, plutôt pour le travail dans les champs ou le potager. Ici, le champ, dont les haies ont été arrachées dans les années 70 suite à la politique de remembrement. C'était une prairie pour les animaux. Puis l'agriculteur qui louait ses champs ces 20 dernières années y a fait pousser des céréales ou du tournesol. Mais mes grands-parents en ont toujours gardé une petite parcelle pour leur propre usage. Une prolongation de leur potager pour y faire pousser des légumes en plus grosse quantité. Des pommes de terre, du maïs pour les poules, il y avait des pommiers, des framboisiers. Et ça, c'est la partie uniquement destinée au potager. Mes grands-parents y faisaient aussi pousser des légumes pour leur consommation personnelle, de la salade, des tomates, des carottes, des poireaux, etc. Je ne vous ai pas tout montré ou expliqué de manière exhaustive et dans les détails. Mais il y a une dernière chose que je voulais vous montrer. On est de retour dans la cour principale. C'est l'intérieur de la grange. Il y a quelque chose qui m'a toujours un peu étonné. C'est cette cave creusée à la main par mon grand-père dans le sol de la grange. Avant, dans cette région, les gens creusaient leur propre cave à l'extérieur, en bordure de haies, au fond du jardin. Mais surtout, c'était presque sous les champs. Et au fur et à mesure, avec l'usage plus fréquent d'engins agricoles lourds, beaucoup de ces caves menaçaient de s'effondrer. Et donc mon grand-père a décidé dans les années 90 de reconstruire sa propre cave en dur. Ce qui est étonnant, malgré que cette cave soit construite en intérieur, c'est que pendant les saisons froides, en hiver, lorsqu'il pleut, l'eau remonte du fond de la cave. Elle devient inondée. Cette pièce a donc un usage irrégulier, éphémère et surtout non souhaité, celui d'indiquer le niveau d'eau présent dans la nappe phréatique. Je voulais vous montrer cette image. C'est une photographie qui a été prise pour faire état d'un moment, comme pour faire un souvenir. Le souvenir d'une après-midi dans un parc à Bruxelles alors que je rendais visite à des amis en automne dernier. Ce jour-là, le temps est splendide. Le soleil réchauffe la pelouse et le sol un peu humide de ses rayons tièdes. L'air est chargé de douceur, il n'y a pas un courant d'air pour nous faire frissonner, et j'aperçois même quelques gouttelettes de sueur perlées sur le front de mon ami. Alors nous nous sommes allongés dans l'herbe pour lire, nous étions vraiment bien. Et puis lorsque nous en avions assez, nous avons juste observé ce qu'il se passait autour de nous. Les gens qui sont là, dans ce parc en milieu d'après-midi. Il y a des personnes seules, lisant un livre ou fermant simplement les yeux, ne faisant rien d'autre qu'être allongées, avec ou sans chien à leur côté. Certains portent des lunettes de soleil, fument des cigarettes ou boivent une bière. Il y a de petits groupes formés de deux ou trois personnes, discutant calmement ou de manière un peu plus enjouée, ne troublant cependant pas la quiétude générale émanant du parc. Certains ont enlevé quelques vêtements pour exposer leur peau au soleil. Un pull, des chaussures, voire même un t-shirt, laissant apparaître un torse nu. Je remarque un grand nombre de parents, seuls ou avec leurs très jeunes enfants, des bébés. Ils ont presque chacun le leur. On ne le voit pas sur la photographie, mais derrière nous, il y a un homme allongé au sol, son enfant à ses côtés, semblant être plongés tous les deux dans une très grande conversation. Même si, bien sûr, ce bébé ne sait pas encore parler, il écoute activement, avec attention, la moindre phrase que prononce son père. Là, il y en a un autre qui gonfle le ballon de sa petite fille qui patiente à ses côtés. Il y a des choses qu'on ne remarque que longtemps après avoir observé une image, après en avoir scruté les moindres recoins. Par exemple, cet homme que l'on voit allongé derrière. Sur cette photo, on le distingue assez mal, mais voilà le détail d'une autre photo prise à quelques temps d'intervalle. Avant, il m'intriguait un peu jusqu'à ce que je comprenne que c'était sans doute parce qu'il me faisait penser vaguement à un tableau d'un peintre italien de la Renaissance. J'étais un peu déçu. Cette photo, je n'en suis pas directement l'auteur. En fait, j'ai demandé à mon ami de la prendre avec son téléphone portable, et pendant ce temps-là, je suis allé à l'autre bout du parc me placer debout à côté du très grand arbre que l'on voit au dernier plan. Ce n'était pas très important que ce soit précisément moi qui sois là-bas. D'ailleurs, je ne savais pas vraiment bien comment me positionner. Mais ce que je voulais, en me plaçant à côté de l'arbre, c'était pouvoir donner une échelle de son envergure par rapport à une personne humaine. J'en ai aussi profité pour ramasser une feuille de l'arbre tombée au sol, dans l'idée plus tard de peut-être réussir à l'identifier. Depuis, je ne l'ai pas à chercher plus que ça, je sais simplement que c'est une feuille que l'on dit composée, car elle est constituée de plusieurs folioles disposées sur le pétiole. Pour la conserver, je l'ai glissée dans ce que j'avais dans mon sac à dos à ce moment-là, les deux livrets d'exposition que mon ami et moi étions allés voir avant de venir dans le parc. Dans une de ces expositions, un artiste présentait, entre autres, un poêle et du mobilier qu'il avait lui-même dessiné. Le poêle était installé dans une pièce pourvue d'une grande verrière, si bien que les rayons du soleil, tapant dans la verrière combinés à l'action du poêle, produisaient une chaleur étouffante. Les personnes qui surveillaient cette installation étaient cependant obligées d'alimenter cette souffrance au moyen d'un gros tas de bûches. Ce jour-là, nous étions le 16 octobre 2018 et un peu plus tard, en marchant dans la rue, je me rappelle être un peu confus lorsque j'ai remarqué en regardant la devanture d'une pharmacie qu'elle indiquait la température extérieure de cet après-midi d'automne. Il faisait 26 degrés Celsius.